Vous écoutez On lit pour vous.
Un dossier judiciaire de 2021 avait révélé une discrimination systémique de la part du gouvernement à l'encontre des personnes handicapées à la recherche d'un logement et de services au sein de leur communauté. Une commission d'enquête sur les droits de la personne a dressé une liste de réformes, dont la fin du placement en institution. Les responsables gouvernementaux indiquent qu'il y a 301 personnes de moins dans des établissements tels que les foyers d'accueil et les centres de réadaptation qu'il y a 3 ans. Il reste donc 559 personnes handicapées vivant en institution. La ministre Susan Corkum-Grick se dit optimiste de pouvoir les transférer vers d'autres solutions de logement d'ici 2 ans. C'était « La désinstitutionnalisation se poursuit en Nouvelle-Écosse », un texte de la presse canadienne paru le 11 juin 2026 sur le site ICI Nouvelle-Écosse.
Le mystère de Cassiopée enfin résolu. Un texte de Simone Caron paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Au centre de la célèbre constellation, l'étoile Gamma Cass émet d'étranges rayons X très énergétiques. Après 50 ans de recherche, les astronomes savent enfin pourquoi. Grâce à sa forme en W, la constellation de Cassiopée est l'une des plus faciles à repérer dans le ciel de l'hémisphère nord. En son centre brille l'étoile Gamma Cassiopeiae, ou Gamma Cass pour les intimes. Malgré sa visibilité, cette étoile cache un mystère. Elle émet des rayons X d'une intensité bien supérieure à celle d'étoiles comparables. Depuis 50 ans, les scientifiques tentent de comprendre l'origine de ce rayonnement atypique. Grâce au télescope spatial japonais CRISM, on tient enfin une réponse, publiée dans Astronomy and Astrophysics. Gamma Cass est une étoile massive et mature, entourée d'un disque de gaz, de poussière et de roches. Contrairement aux étoiles naissantes qui se nourrissent de leur disque, Gamma Cass éjecte de la matière vers le sien. Mais surtout, elle émet des rayons X de haute énergie, brillante avec une luminosité environ 40 fois supérieure à celle généralement attendue pour des étoiles aussi massives. Ces émissions proviennent de plasma chaud, explique Yaël Nazé, astrophysicienne à l'Université de Liège et autrice principale de l'étude. Habituellement, le plasma d'une étoile massive atteint environ 10 millions de degrés. Ici, on dépasse les 100 millions. Alors, que se passe-t-il? Étrange compagnon. Pour expliquer ce phénomène, 4 scénarios ont été proposés. Le premier mise sur des interactions magnétiques entre l'étoile et son disque, qui chaufferait la matière. Dans les 3 autres, les rayons X seraient plutôt émis par un compagnon, un terme qui désigne une étoile plus petite orbitant autour du même centre de gravité que Gamma Cass. Il s'agirait soit d'un cœur stellaire dénudé, c'est-à-dire une étoile qui a perdu son enveloppe, soit d'une étoile très compacte, puisqu'invisible. Une naine blanche, massive comme le Soleil, mais de la taille de la Terre, ou une étoile à neutrons, tout aussi massive, mais d'un rayon de seulement 10 km. Au fil des années, les hypothèses tombent. L'étoile dénudée est écartée en 2022, puis l'étoile à neutrons en 2024. Pour trancher entre les 2 possibilités restantes, il faut déterminer qui émet les rayons X. Gamma Cass, scénario 1, ou une possible naine blanche voisine, scénario 3. Le problème, précise Yaël Nazé, c'était que les instruments manquaient de précision pour nous montrer à qui étaient rattachées les émissions de rayons X. Tout change avec le nouveau télescope spatial japonais CRISM, lancé en 2023, qui est doté d'un spectromètre à très haute résolution. Yaël Nazé et son équipe s'en servent pour photographier Gamma Cass au rayon X en décembre 2024, puis en février et en juin 2025. La précision inégalée de CRISM révèle que les rayons X sont émis par une étoile périphérique. Gamma Cass est donc accompagnée d'une naine blanche qui avale la matière éjectée par l'étoile principale et la transforme en plasma ultra chaud, lequel émet les rayons X. Enfin, l'affaire est classée. Ou presque. Il en reste encore beaucoup à apprendre sur les transferts de masse au sein de ce couple d'étoiles. On connaît une vingtaine d'objets qui ont les mêmes propriétés que Gamma Cass, précise l'astrophysicienne. Il sera intéressant de tenter de faire les mêmes observations sur ces étoiles pour confirmer notre explication. C'était « Le mystère de Cassiopée enfin résolu », un texte de Simone Caron paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Le gouvernement Carney est poursuivi pour son plan climat voué à l'échec. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Trois jeunes Canadiennes poursuivent le gouvernement fédéral pour dénoncer le plan climat qu'elles jugent inefficace. Les émissions de GES du pays ont diminué de seulement 10 % entre 2005 et 2024, loin des cibles établies. Le cabinet de la ministre de l'Environnement affirme que le Canada vise toujours la carboneutralité d'ici 2050. Trois jeunes citoyennes appuyés par des groupes écologistes et l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, lancent une action en justice contre le gouvernement fédéral de Mark Carney. Leur poursuite fait valoir que le plan climat du Canada est voué à l'échec, ce qui signifie qu'il viole la législation qui doit permettre au pays d'atteindre la carboneutralité. L'action intentée par Éco-Justice au nom des citoyennes canadiennes Sophia Mather, Marie Maltais et Shirley Barney, mais aussi de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et d'Environmental Defense, allègue plus précisément que le démantèlement par le gouvernement de mesures clés du plan climatique fédéral a entraîné des violations de la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. En vertu de ce texte législatif, le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, pour 2030 doit décrire les principales mesures que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre la cible. Les demandeurs soutiennent donc que l'approche « établir et oublier » du gouvernement à l'égard de ce plan est illégale. Les requérants demandent donc au tribunal d'ordonner au gouvernement de réviser son plan de réduction des émissions pour 2030 afin qu'il respecte son obligation légale d'établir une marche à suivre crédible permettant au Canada d'atteindre sa cible pour 2030. Le gouvernement serait libre de choisir les mesures qu'il entend prendre pour atteindre cet objectif, mais le public aurait le droit de donner son avis, ajoute le communiqué publié mardi matin. Sur la voie de l'échec. Pour le moment, les données officielles sur les émissions de GES démontrent que le Canada est en voie d'échouer à atteindre son objectif à l'horizon 2030. Les données fédérales publiées en avril indiquent que les émissions de GES atteignaient 685 millions de tonnes MT en 2024, soit un recul de seulement 10 % par rapport à leur niveau de 2005. Or, la cible officielle du Canada pour 2030 impliquerait une baisse de 40 à 45 % des émissions par rapport à leur niveau de 2005, ce qui signifierait de ramener le bilan national quelque part entre 417 et 455 MT. Un rapport publié en douce en décembre dernier par le ministère de l'Environnement et du Changement climatique concluait à un échec probable de l'objectif à l'horizon 2030. La trajectoire détaillée dans le rapport indique que les émissions de GES du pays devraient atteindre entre 546 et 600 MT en 2030. Cela représente une diminution qui se situerait entre 21 et 29 % par rapport à 2005, année de référence utilisée par Ottawa. Catastrophe climatique et promesses politiques non tenues. Ma génération a grandi entourée de catastrophes climatiques et de promesses politiques non tenues pour y remédier. On nous dit de faire confiance aux engagements climatiques du gouvernement, mais les engagements ne signifient rien sans un véritable plan pour les soutenir. Résume Marie Maltais, une jeune demanderesse du Québec. Dans le cadre de leur sortie publique, mardi, les groupes environnementaux ont insisté sur les conséquences de la crise climatique alimentée par notre dépendance aux énergies fossiles. Ce sont les Canadiens qui en paient le prix, à travers les feux de forêt, les vagues de chaleur, l'insécurité alimentaire croissante et le coût élevé de la vie, souligne Julia Levin, directrice adjointe au climat national chez Environmental Defense. Depuis son élection, le premier ministre Mark Carney a mis de côté différentes mesures destinées à réduire les émissions de GES, notamment des politiques visant les émissions du secteur pétrolier et gazier, dont leur plafonnement, la pollution du secteur des transports et la tarification du carbone. Le gouvernement fédéral mise aussi sur une hausse de la production et des exportations d'énergie fossile au cours des prochaines années, notamment de la part de l'industrie des sables bitumineux et des entreprises qui exploitent du gaz par fracturation. Ottawa continue de parler de carboneutralité d'ici 2050. L'ancien ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a déjà critiqué sans détour l'abandon des progrès climatiques durement acquis au seul profit de l'industrie des énergies fossiles. Résultat, il sera, selon lui, impossible de respecter nos engagements en matière de lutte contre la crise du climat et l'objectif essentiel de la carboneutralité a tout simplement disparu. Le cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a réagi au devoir par écrit en défendant l'action gouvernementale. Nous sommes au courant de la récente contestation judiciaire. Le gouvernement du Canada s'engage à lutter contre le changement climatique et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Nous continuerons à œuvrer pour bâtir un pays propre, à faibles émissions de carbone et résilient, Comme cette matière est actuellement devant les cours, nous ne pouvons pas commenter davantage. C'était « Le gouvernement Carney est poursuivi pour son plan climat voué à l'échec. » Un texte d'Alexandre Shields, paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir.
Les nuits du village, vibrantes, imparfaites, essentielles, une chronique de Gabriel Rondy, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. Chers lecteurs, chères lectrices, les nuits d'été dans le village, c'est incontournable. Mais une nuit réussie, ce n'est pas juste une nuit le fun. C'est une nuit où tout le monde peut y trouver sa place, celles et ceux qui sortent et celles et ceux qui habitent ici. Et honnêtement, c'est exactement ça notre défi et notre fierté dans le village, trouver l'équilibre entre une énergie nocturne unique, une vie de quartier bien réelle et une artère commerciale qui a besoin de battre au rythme de l'été. Parce que le village, ce n'est pas un décor. Surtout depuis que la Société de développement commercial, SDC, a obtenu le titre de pôle de vitalité nocturne au début de 2026. Ce que cette reconnaissance vient souligner, ce n'est pas seulement notre capacité à faire la fête, c'est notre capacité à faire vivre un quartier après le coucher du soleil, à soutenir des commerces, des restaurants, des bars, des salles de spectacle et des événements qui contribuent à l'identité de Montréal. Le village, c'est un milieu de vie, un lieu de travail, un lieu d'appartenance, un endroit où l'on vient célébrer, parfois fort, parfois tard, et où d'autres se lèvent tôt le lendemain matin. Les deux réalités existent en même temps, et elles méritent toutes les deux du respect. C'est probablement l'un des plus grands défis du village, mais aussi l'une de ses plus grandes forces. Le retour du soir, une signature, une économie, une culture. On le sent déjà, le soir revient. Les terrasses se remplissent, les conversations s'étirent, les groupes d'amis se retrouvent juste pour un verre, qui devient parfois deux ou trois, ou jusqu'à ce qu'on ne compte plus. Les gens se promènent sans urgence. La musique s'échappe des portes entrouvertes. Il y a quelque chose de profondément montréalais là-dedans. Et dans le village, ça prend une couleur particulière, une liberté assumée, une diversité visible, une fierté nécessaire. Cette vie de soir n'est pas un extra. Elle fait partie de notre ADN. Elle est au cœur de ce que le village représente depuis longtemps. Elle nourrit les commerces, oui, mais elle nourrit aussi le sentiment d'être au bon endroit. Elle contribue à l'attractivité du quartier. Elle donne une raison de venir et une envie de revenir. Mais ce que j'ai appris sur le terrain, c'est que cette magie ne se maintient pas toute seule. La ligne fine entre vibrant et trop. Une nuit vibrante, c'est une nuit où l'on se sent bien, une nuit où l'on se sent en sécurité, respecté et accueilli. À l'inverse, une nuit qui devient trop, c'est une nuit où les irritants s'accumulent, où l'ambiance déborde, où quelqu'un finit par se dire « OK, là, ça suffit ». Si on veut un village nocturne fort, durable et rassembleur, il faut être capable de dire deux choses en même temps. On veut de la vie, de la fête et de l'énergie. On veut aussi que ce soit vivable, respirable et respectueux. Ça a l'air simple, écrit comme ça. Dans la vraie vie, c'est plus complexe. Le bruit, par exemple, ce n'est pas seulement une question de volume. C'est une question d'heure, de répétition, de fatigue. Quand tu as passé une semaine difficile, quand tu as un bébé, quand tu travailles tôt le lendemain matin ou quand tu traverses une période plus fragile, un petit irritant peut rapidement devenir énorme. À l'inverse, quand tu sors pour célébrer, te retrouver ou simplement profiter de l'été, tu ne veux pas avoir l'impression que ta présence dérange. Et c'est là que l'équilibre devient essentiel. Un quartier de soirée peut exister sans devenir un quartier de conflit. Mais ça demande des outils concrets, des gens sur le terrain et une volonté collective de prendre soin les uns les unes des autres. Des outils concrets, le retour des veilleurs. C'est ici que j'arrive au point central de cette chronique. Les veilleurs seront de retour dans le village dès le 12 juin, tous les vendredis et samedis soirs, et ce, jusqu'au 26 septembre. Ils seront également présents lors de nos événements spéciaux et de nos soirées de prolongation des heures d'ouverture. Nous avions eu l'occasion de tester le projet à l'automne 2025 et les résultats étaient au rendez-vous. On ne parle pas ici d'une police du party. On parle d'une présence humaine, accessible, capable de prévenir, de désamorcer et d'orienter. Une équipe dont le rôle est d'aider à maintenir un climat agréable avant que les petites situations deviennent de gros problèmes. Concrètement, les veilleurs offrent un canal direct. Une façon de dire « on est là ». On vous écoute, on peut intervenir tôt. Si une situation de bruit devient problématique à un endroit précis, ils peuvent se déplacer et faire une approche de médiation. Si quelqu'un se sent inconfortable, inquiet ou ne sait pas vers qui se tourner, ils peuvent orienter vers les bonnes ressources. S'il y a une tension sur le domaine public, leur présence peut aider à apaiser la situation et à ramener le dialogue. L'idée n'est pas de briser l'énergie du quartier. L'idée est de la protéger. Parce qu'un quartier qui se braque contre sa propre vie nocturne est un quartier qui s'épuise. Et un quartier qui nie les besoins de celles et ceux qui y habitent est un quartier qui se fragilise. Un numéro simple, un réflexe simple. L'objectif des veilleurs, c'est que tout le monde sache quoi faire quand quelque chose dérape un peu. Pas pour dramatiser. Juste pour avoir un moyen facile de dire « Ça serait le fun qu'on ajuste quelque chose ici » ou « Est-ce que quelqu'un peut venir jeter un coup d'œil ?» Les veilleurs, comment les joindre ? Téléphone 263-550-68-17. Disponible tous les vendredis et samedis, du 12 juin au 26 septembre, de 21h à 4h, ainsi que lors d'événements spéciaux de 23h à 6h. Pour demander une présence, signaler une situation qui nuit à la quiétude, partager une inquiétude ou être dirigé vers la bonne ressource, en cas d'urgence, 911. Merci à celles et ceux qui prennent soin du village, même après la fête. Je veux aussi prendre un moment pour remercier nos alliés du village qui s'assurent que chaque lendemain matin, la fête ne soit plus visible dans la rue. Leur présence, leur constance et leur travail sur le terrain font une différence immense. Souvent dans l'ombre, toujours avec professionnalisme, ils contribuent chaque jour à la qualité de vie, à la propreté et à l'accueil de toutes et tous. Merci également à la Ville de Montréal pour son soutien financier au projet d'éveilleurs. Ce soutien-là n'est pas un détail. Il permet de mettre en place des solutions humaines, concrètes et adaptées à la réalité du terrain. Enfin, merci à la Société de développement du boulevard Saint-Laurent qui a initié le projet d'éveilleur il y a maintenant une décennie et qui a accepté de venir le gérer pour nous durant la saison estivale. C'est un véritable projet de mutualisation entre deux quartiers qui prennent soin de leur vie nocturne avec intelligence, ouverture et solidarité. Et j'ai énormément de respect pour ça. Une invitation et une petite demande. Je vais terminer sur quelque chose de simple. Si vous venez passer vos soirées dans le village cet été, merci. Merci de soutenir nos commerces. Merci de faire vivre notre rue. Merci de contribuer à cette énergie collective qui rend le quartier unique. Et j'ai aussi une petite demande, formulée avec beaucoup d'affection. Aidez-nous à garder ces nuits belles. Une voix un peu plus basse quand il est très tard. Un peu plus de douceur dans l'espace public. Un respect réel pour celles et ceux qui habitent ici. On ne parle pas de perfection. On parle de réflexe. On parle de bienveillance. On parle de conscience. Parce que, oui, les nuits d'été dans le village sont incontournables. Elles sont parfois bruyantes. Elles sont parfois imparfaites. Elles demandent du travail, de l'écoute et beaucoup de collaboration. Mais elles sont aussi remplies de rencontres, de liberté, de culture et de souvenirs qui restent longtemps. Et mon souhait le plus sincère, c'est qu'on continue collectivement à en prendre soin pour que, dans 20 ans, quelqu'un puisse encore s'asseoir sur une terrasse du village, regarder la rue s'animer et se dire « C'est exactement ici que j'avais envie d'être ce soir. » À très bientôt sur Sainte-Catherine-Est. C'était Les Nuits du Village, vibrantes, imparfaites, essentielles, une chronique de Gabriel Rondy, parue le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.